Bonjour tout le monde, comment vous allez bien? Marion qui va toujours chercher à s'enfouir au fond du canapé.
Je suis là, je suis là.
Je recadre sur toi. On est sur ex de ouf sur le côté, il y a trop de lumière sur toi. Peut-être essayer de fermer ce... Ah ben voilà qui est mieux.
En un coup de rideau.
Beaucoup moins sur ex. Salut Oleg, salut Samuel. Salut Samuel. On nous reçoit, on espère que vous avez passé
salut
un
Olivier.
Bon week-end.
Salut Schnours, salut Tic Takumi, salut Pascal. Bon, mais j'espère que vous êtes reposé ce week-end.
Que vous êtes allé voir. Ouais. Il est sorti ce week-end. Il était sorti le film sur Elton John.
Ben oui,
Rocketman.
Il est sorti mercredi. Non,
vous êtes allé voir Rocketman.
Je sais pas s'il est sorti. En fait, tu me mets en doute là.
Je crois qu'il est sorti.
Il sort pas cette semaine.
Ah, peut-être.
J'ai un petit doute.
Ouais, il est peut-être pas sorti. Rocketman, pas encore.
29
non, il est
mai.
Pas...
Ouais.
29 mai. Non, bah alors le week-end prochain.
Ah, on l'a vu quand même pas mal en avance. Hein.
Bah, ça s'appelle une avant-première, c'est le concept.
Non, mais normalement. Bon.
Bon, sur ce, hein, je propose que nous passions à nos remerciements du jour aux contributeurs. Aujourd'hui, on remercie.
On remercie Bénous.
On remercie Jutotim.
Lionel.
Arias.
Et Lapostec.
Merci à vous, les contributeurs.
Je ne vais pas aller le voir car je ne suis pas fan de Rocketman.
C'est une bonne raison pour ne pas aller le voir.
On n'est pas fan non plus, mais...
Ah si, de Elton John, moi j'aime bien.
Je ne suis pas fan, tu vois. Y a des chansons
disons que c'est la musique de mon enfance, moi. Mais
Y a des chansons que j'adore, mais il y en a beaucoup que...
Ouais. Oui, après Elton John, il y a du bon, mais il y a du moins bon. Il y a le bon Elton John et puis moins bon Elton John. Voilà. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire de la chronique de cinéma, on est là pour parler de tech et donc de Huawei, puisque c'est notre feuilleton, le Game of Huawei du printemps. Des réactions ce matin, alors d'abord des nouvelles interdictions pour Huawei et pas des moindres, le Wi-Fi, le SD, bref, il va leur rester plus que le plastique hein, au bout d'un moment. Mais surtout, plus intéressant, une interview et la réaction du fondateur de Huawei qui dit des choses intéressantes du genre « je suis contre le fait que Apple soit ban en Chine ». Tu vois, beau seigneur. Tu nous parleras ensuite...
On parlera ensuite de santé, avec l'Organisation Mondiale de la Santé qui reconnaît officiellement les troubles de jeux vidéo. Oui, c'est pas une blague, c'est reconnu officiellement, c'était déjà en cours depuis quelques années, en cours de discussion, ça y est, et on verra ensemble justement qu'est-ce que ça impacte et quelles seront les conséquences de cette reconnaissance à l'échelle mondiale.
Et nous continuons sur le jeu vidéo puisqu'on parlera du Project xCloud de Microsoft, votre Xbox dans les nuages, avec pas moins de 3 générations de jeux Xbox qui seront disponibles. La supériorité technologique de Microsoft par rapport à Sony sur justement ce gaming in the cloud.
Et puis on continuera en prenant des nouvelles de notre ami RGPD, Règlement Général de la Protection des Données, qui fête son premier anniversaire, qui l'a fêté, du coup on est le combien là? Il y a 2 jours, non?
Il n'y avait pas de cookies de son anniversaire. Oh, que je suis drôle et spirituel.
C'était un anniversaire diète pour le RGPD, justement, avec moins de cookies que d'habitude pour samedi. Et donc, on reviendra sur quels ont été l'impact du règlement général de la protection des données. Slow clap pour Jérôme. Il est en forme. Hein.
Tout le monde est là.
C'était pas mal quand même.
Ça va donner ce matin.
Moi j'ai apprécié en tout cas.
Merci, t'es mon meilleur public.
Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis un an quel a été l'impact justement de la mise en place de ce règlement général à la protection des données à l'échelle européenne et mondiale.
Et nous parlons également d'une affaire qui pourrait devenir une grosse affaire. Je ne sais pas si ça concurrencera Huawei, mais ça pourrait devenir une grosse affaire puisqu'il y a une class action, une action collective contre Apple et contre le fait qu'Apple vendrait des données de iTunes. Alors là, ça pourrait être un très gros scandale. Apple qui dit même dans ses publicités qu'il ne vend pas les données. Qu'est-ce qu'il en est? Où est la vérité?
Qu'est-ce que ça veut dire vendre des données?
Ouais.
Et puis on enchaînera pareil, tandis que Apple permet ce qu'on écoute ses utilisateurs, et ben c'est la même pour Snapchat qui s'amuse à espionner ses utilisateurs. Et oui, alors que le service est quand même réputé pour stocker sur une durée limitée les données, il y aurait une backdoor, un accès qui permettrait aux employés, à un nombre limité d'employés, de pouvoir accéder à certaines données, sauf que plus d'employés que prévu, il y aurait eu accès et pas dans les bonnes conditions.
Ah bah bravo, ça commence bien. Ça commence bien, donc on va commencer effectivement, non pas par les élections européennes, parce que ce n'est absolument pas le rôle de Techscope, donc on n'a pas de commentaires à faire. Il n'y a pas eu d'histoire d'ailleurs dans les réseaux sociaux, à part moi qui vois des cornes dans certaines photos, mais sinon ça n'a pas fait de buzz sur les réseaux sociaux.
Ah, t'es déçu, ta photo n'a pas fait le buzz.
Ah si, elle a bien buzzé quand même, hein, elle a bien buzzé. Bref, on s'en fout. On parle de Huawei. Huawei, les mauvaises nouvelles s'accumulent, hein, pas un jour sans mauvaises nouvelles pour Huawei, puisque là, Huawei s'est fait éjecter de la Wi-Fi Alliance, de la SD Association et d'autres standards concernant l'USB, hein, pas des moindres. Donc on se demande ce qui va rester à Huawei, pas grand-chose. Alors quand même, précision, le fait d'être éjecté, par exemple, de la SD Association, ça ne veut pas dire forcément que Huawei ne pourra pas mettre de carte SD. De toute façon, ils ne le font pas, hein, dans leur smartphone. Mais ça les exclut, effectivement, des décisions technologiques. Et c'est la même chose pour le Wi-Fi. Ce n'est pas parce qu'ils se font éjecter de Wi-Fi Alliance, qui se trouve au Texas, qu'ils ne pourront pas mettre de Wi-Fi dans leur smartphone. Simplement, encore une fois, ils ne feront pas partie des réunions où on décide de l'avenir de la Wi-Fi. Donc, c'est un retard technologique. Enfin, ça leur infligerait un retard technologique parce qu'ils n'auraient certainement pas les informations sur les normes Wi-Fi à venir et ce genre de choses, quoi. Également, on apprend qu'ils sont éjectés du GEDEC, qui se trouve en Virginie, ouais, pardon, qui lui simplement s'occupe des spécifications autour de l'USB et de la RAM. Rien de bien grave, hein, de toute façon. Bref, en tout cas, ça allonge un petit peu la liste de ceux qui disent « Non, mais Huawei va développer ses propres trucs ». Ça en fait des choses à développer. Ils ont un Windows à développer, un Android à développer, du SD à développer, du Wi-Fi à développer. Ils ont un petit peu tout à développer. Possible. Peut-être, rapidement, certainement pas. Donc la situation continue à être très très compliquée pour Huawei. Et justement, on a eu la réaction ce week-end, une longue interview de Ren Zhengfei, le cofondateur de Huawei, le milliardaire cofondateur, qui s'en tient un petit peu, j'allais dire, à la ligne du parti, mais non, c'est pas ça qu'il faut dire, à la même ligne de com, avec des nuances intéressantes dans cette interview de ce week-end. Il dit, c'est évident que si toutes ces mesures sont appliquées, Huawei va prendre 2 ans de retard. Au moins, voilà, il le dit, 2 ans de retard. Mais ça ne nous empêchera pas, effectivement, de développer nos propres puces, de devenir justement plus indépendants, de développer nos propres systèmes. Je pense que 2 ans, c'est une vision assez raisonnable quand on voit la vitesse à laquelle la Chine s'adapte et peut s'adapter. Mais il est réaliste. Il est réaliste que Huawei va évidemment prendre du retard avec toutes ces mesures contre Huawei. Aujourd'hui, justement, il dit, mais le retard ne sera peut-être pas que pour nous. Le déploiement de la 5G risque de prendre du retard avec toutes ces histoires, puisque c'est nous qui avons la technologie. Et il n'a pas tort. Huawei est leader dans la technologie. C'est pas uniquement des composants moins chers pour la 5G, parce que ça, c'est un peu la vision manichéenne qu'on a des choses. Huawei, ils ont les mêmes produits que les autres, mais juste moins chers. Genre les Chinois d'il y a 3-4 ans, suiveurs. Non, aujourd'hui, Huawei a développé des technologies dont ils sont effectivement propriétaires. Ce qu'ils disent sur la vitesse de récupération de Huawei, ils disent ça va dépendre en fait de la vitesse à laquelle, en gros, mes employés travaillent. Donc, bon, beaucoup de sur les employés de Huawei. Il dit, de toute façon, j'en ai un peu... Enfin, je traduis, hein, mais je suis très mauvais en chinois. Ce n'est pas grave, les matériaux qu'ils emploient, ils peuvent mettre du métal, du tissu ou du papier. Le plus important, c'est que l'avion reste en l'air. Donc, c'est un peu la vision qu'il a quand même de Huawei. C'est un avion qui... Ça me fait penser à la scène d'Indiana Jones quand... Le papa d'Indiana Jones s'y tire dans la queue de l'avion avec la mitraillette. Bref, l'avion va pas très bien, mais bon, il faut que ça reste en l'air, donc on va coller avec tout ce qu'on peut, et il va essayer de rester en l'air. Risque d'être intéressant. Mais il y a d'autres choses aujourd'hui. Si vous avez suivi, je crois que c'est vendredi ou jeudi, Trump a fait une déclaration. Déclaration très floue, pour résumer les choses, où il dit « Huawei, c'est très dangereux ce qu'ils font, mais ils sont dans l'accord commercial. » Alors déjà, il y a une énorme incohérence, mais Trump nous habitue à ça. Comment on pourrait inclure dans une négo commerciale un truc qui est très dangereux? Enfin, tu vois, ça ne tient pas debout. Donc, on sent bien quand même que Huawei est son coup de poker dans la négociation avec la Chine. Ce qui me fait dire, et c'est mon petit doigt et mon nez qui me dit ça, que ça va bientôt être résolu, cette histoire. On verra, mais c'est mon pronostic, ça va bientôt être résolu. Mais bon.
Ouais, t'avais dit déjà la semaine dernière, ouais, que tu ne pensais pas que ça allait durer très longtemps.
Non. Je pense que c'est juste une carte qu'il a et qui va être résorbée assez vite dans la négo.
Donc, pour information, ça fait un peu plus maintenant d'une semaine que ces décisions ont été prises.
Ouais. Oui, plus. Voilà.
Après, et pour rappel, c'était Xiaomi qui avait été inquiété, ou ZTE, non, c'était ZTE.
ZTE avant.
Ça avait duré 15 jours.
Ouais. Donc, à mon avis...
Ça donne un ordre d'idée.
Ouais, ça va être... Disons que là, le coup de poker est plus violent parce qu'il a abattu sa main, il a montré sa carte. On verra. Pour l'instant, en tout cas, Huawei ne se démonte pas et dit justement, en parlant de la réaction de Trump jeudi, Ren dit c'est une grosse blague. Je ne vois pas comment nous pourrions être dans la négociation avec des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et dit de toute façon, si Trump m'appelait, je décrocherai même pas mon téléphone. Donc il y va de sa bravache hein, quand même. et il continue à se moquer de Trump parce qu'il dit « Je regarde ses tweets et je pense que c'est vraiment à mourir de rire parce qu'il y a tellement de contradictions. » On ne peut pas vraiment le contredire, hein, là, pour le coup. Et il dit « Je ne comprends pas comment un tel homme a pu devenir... vous savez, le bouquin de Trump, c'est « The Art of Deal », l'art de la négociation. » Il dit « Je ne comprends pas que ce mec-là ait écrit ce bouquin, quoi. » Donc, bon, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Plus intéressant peut-être que ça, il parle d'Apple et il dit qu'il s'opposerait à un ban d'Apple en Chine. D'abord, lui ne pense pas que ça aura lieu, un ban d'Apple en Chine. C'est vrai que les raisons seraient ténues quand même pour ban Apple et que lui, de toute façon, s'y opposerait. Il dit quelque chose de très condescendant envers Apple quand même. Il dit « Apple, c'est mon professeur. Je suis un étudiant. » Qui s'en prendrait à son professeur? Je trouve ça très condescendant, en fait. Genre, mon vieux prof Apple que j'ai explosé déjà au niveau des ventes, j'ai du respect pour mon ancien professeur que j'ai dépassé depuis longtemps. Puisque c'est ce qu'il dit, en fait, pour terminer.
J'aime bien la menace froide, tu sais. Il n'y a pas de menace, mais quand même...
Oui. C'est tendu, hein, tendu du slip, hein, toute cette histoire. Et il dit quand même quelque chose, pour terminer avec les bravaches. Il dit, on nous accuse de voler des technologies. Mais c'est ridicule. Nous sommes en avance sur ces technologies. Donc, ça voudrait dire qu'on a volé des technologies du futur des Américains, puisque les technologies qu'on a aujourd'hui, les Américains ne les ont pas. Boum. Ça, c'est drop the mic. Hein. Voilà où on en est, effectivement.
Il y a du niveau.
Il y a du niveau. Ça se bat à haut niveau. Mais quand même, si on en revient à la première chose qu'il a dit, quand même, c'est quand même très inquiétant pour Huawei. 2 ans de retard en termes d'années tech.
C'est énorme.
C'est deux décennies de retard, quoi. Ah, en année tech, quasiment. Hein. En 2 ans, ça peut disparaître. Ils peuvent perdre tellement de parts de marché que ça peut disparaître. Donc, il est quand même bien conscient que la situation est dangereuse. Mais après, voilà, il ne se démonte pas. Hein, pour l'instant, il ne se démonte pas. C'est pour ça que je continue dans mon hypothèse qu'ils savent tous très bien que cette histoire va se détricoter assez vite. Et que là, c'est juste des positions RP qu'ils prennent. C'est mon hypothèse.
Papy Apple.
Papy Apple, ouais, c'est un peu ça, ouais. Yep. Ouais, ZTE qui a arrêté ses smartphones, c'est peut-être pas uniquement à cause de cette situation, mais... si on connaît la philosophie chinoise, la réaction va venir, il n'y aura pas plusieurs avertissements et ça fera très mal. Je crois qu'on est tous à attendre ça. Moi, j'ai l'impression que le truc va faire pchit. Et que ça va presque être décevant, le dénouement de cette histoire. Mais bon, c'est mon pronostic.
On n'y est pas encore.
Ouais. Eh bien, c'est à toi.
On enchaîne. On enchaîne avec un petit tour du côté de l'Organisation Mondiale de la Santé qui a annoncé, récemment. Est-ce que j'ai une date? Non, je n'ai pas de date.
On en avait déjà parlé, il y avait des supputations autour de ça.
Ça fait quelques années que ça évolue, hein, mais en tout cas, ils ont officiellement reconnu le trouble du jeu vidéo comme liste des troubles à recenser à l'échelle mondiale, voilà, qui fait partie du dictionnaire de la santé ou des maladies. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça venait déjà depuis 2017. Hein. Le trouble du jeu vidéo était devenu, avait fait partie du brouillon de la classification des maladies international en 2018, donc il avait fait partie du brouillon, et puis suite au milieu de l'année 2018, il avait été carrément inclus dans la version bêta de l'édition de la classification internationale des maladies, et là, finalement, ça y est, le vote est passé pour cette 11e édition de la classification internationale des maladies, et ça a été passé à Genève, en Suisse, où finalement le trouble du jeu vidéo a été intégré.
L'addiction au jeu vidéo ?
C'est le trouble du jeu vidéo.
D'accord.
C'est disorder, c'est un trouble.
Oui, c'est un trouble. Oui, voilà. Mais je traduirais addiction, mais...
Alors, et ça a été traduit trouble du jeu vidéo.
D'accord, ok,
voilà,
pardon.
J'ai cherché.
Ah, t'as cherché, ok.
Donc...
pardon.
Après, il y a une notion d'addiction. Hein,
ouais, mais c'est trouble du jeu vidéo.
Voilà. Et du coup, comment il est défini? Il est défini comme... c'est difficile parce que c'est en anglais, mais un jeu incontrôlé, ou en tout cas une envie de jouer incontrôlée, où un joueur ne peut pas s'arrêter, même si ça impacte négativement sa vie et sa santé. Voilà, donc c'est là où on peut justement sous-entendre la notion d'addiction.
Pas ce soir, Jérène.
Oui, voilà, c'est ça.
C'était dans World of Warcraft.
D'accord, je ne savais pas, mais voilà. Et donc, du coup, là, on peut sous-entendre, en effet, une notion d'addiction, parce qu'il y a une notion de ne pas être capable de s'arrêter de jouer. Et donc, du coup, c'est justement, ça fait référence, notamment, ils ont fait référence, l'Organisation Mondiale de la Santé, on fait référence notamment aux deux suicides qui se sont déroulés suite au bannissement de PUBG, je sais pas comment
PUBG.
PUBG, en fait, ça veut dire quoi?
C'est un jeu, PUBG.
Oui, mais ça veut dire quoi? Je sais que c'est un jeu, mais c'est quoi le...
Continue.
Ok, on sait pas, mais bon, du jeu.
Je sais PUBG. Plus ce que ça veut dire, acronyme.
Non, je me demandais, plus. Ouais, ce matin.
Il y a Battleground BG.
Ouais.
Player Unknown Battleground, merci.
Ah,
oui,
merci.
Oui, c'était Unknown.
Players Unknown Battleground, ouais. Donc PUBG. Donc voilà, ils avaient justement banni PUBG et du coup, deux suicides s'étaient déroulés. Puis il y avait également une petite fille de 9 ans qui a dû être envoyée en désinfection, on va appeler ça, pour rater l'école et passer plus de 10 heures chaque nuit à jouer à Fortnite. Et également ensuite il y a eu en Grande-Bretagne 200 divorces qui ont été attribués à ce trouble de jeu vidéo. Donc voilà, Alors pourquoi ils ont fait ça? Et ben en fait, c'était tout simplement pour forcer et encourager les gouvernements à financer la recherche et la prévoyance, enfin pas la prévoyance, pardon, Oh, je perds mes mots ce matin.
Tu me les fais perdre. L'anticipation.
La prévention.
Prévention.
Pas la prévoyance, c'est la prévention, justement, développer de la... Donc, en effet, financer de la recherche et développer de la prévention pour ce trouble du jeu vidéo. Et donc, justement, en reconnaissant à l'échelle internationale ce trouble du jeu vidéo, c'est pour encourager les gouvernements. Alors, après, c'est partagé, c'est un peu mitigé du côté des experts de la santé, évidemment, de l'industrie du jeu vidéo, parce qu'ils ont quand même des profits en jeu. Mais justement, même les experts de santé sont un peu méfiants en face de cette reconnaissance du trouble du jeu vidéo, car ils disent en effet que ça serait, par exemple, un mauvais diagnostic et qu'en fait, ça serait juste un symptôme d'autres problèmes. Voilà, donc c'est intéressant. C'est, à mon avis, à débattre. Moi, je ne suis pas professionnelle de santé et je n'ai pas suffisamment de connaissances là-dessus. Mais c'est intéressant de justement de voir que, d'un côté, l'Organisation mondiale va pousser pour la reconnaissance du trouble du jeu vidéo pour encourager justement le financement de la recherche et la prévention, notamment au niveau des plus jeunes, mais pas que. Et puis de l'autre côté, les professionnels de santé qui disent « Attention, ce n'est pas un trouble en soi, c'est surtout un symptôme de d'autres troubles connus aujourd'hui. »
Moi, en tout cas, ce que je pense de ça, c'est que déjà, il y a deux choses. Il y a, en fait, le débat, c'est est-ce que le jeu vidéo en lui-même peut engendrer des troubles ou est-ce que c'est simplement le support de troubles et d'addictions que tu aurais sur d'autres choses si tu n'avais pas le jeu vidéo ? Parce que je veux dire, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et là, je pense que c'est une bonne chose que ça soit reconnu, c'est comment on traite. Si tes troubles se sont manifestés autour du jeu vidéo, le traitement doit être adapté autour du support de ton addiction, en fait. Je pense pas que tu puisses adapter, je sais pas, du diagnostic et des cures, par exemple, de l'alcoolisme, aux jeux vidéo, ça se traite pas de la même façon. C'est déjà pas une addiction physique, c'est une addiction psychologique. Enfin, bref, c'est intéressant qu'ils travaillent sur les méthodes de guérison. Après, moi, ou de prévention. Après, je ne pense pas que le jeu vidéo en lui-même génère...
Mais la question, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, il y a des drogues ou de l'alcool qui ont été reconnus.
Marion fait peur quand on le regarde genre comme ça. Moi aussi, elle me fait peur. Je m'attends à un retour de bâton, donc je marche sur des oeufs. Ah ouais, tu regardes, c'est...
Mais non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, ça soulève la question de est-ce que scientifiquement, comme l'alcool a été prouvé, les drogues ou certains médicaments qui ont été reconnus avoir des substances addictive, qui génère l'addiction, est-ce que le jeu vidéo, un jeu en soi, parce que tu dis addiction chimique, mais aussi, ça crée aussi...
Oui, psychologique.
Hein, est-ce que le jeu vidéo, qui n'a pas de substance chimique en soi, mais qui peut générer chez le joueur, peut-être sécréter des substances qui créent l'addiction, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas scientifique, mais c'est un débat hyper intéressant et ce n'est pas forcément très, très simple.
Et on sait que les développeurs de jeux vidéo travaillent sur des algorithmes de frustration censés renforcer l'addiction aux jeux vidéo. C'est un sujet très touchy dans l'industrie du jeu vidéo, l'addiction, parce qu'ils sont partagés entre vouloir la créer pour que les gens restent attachés à leurs jeux vidéo et en même temps éviter le bad buzz.
Mais c'est marrant parce qu'on peut le comparer à quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est l'addiction le gambling. Les paris, pas gambling, mais les miser sur quelque chose, ou les jeux de Las Vegas, tu vois, où tu vas miser de l'argent, etc. Là, typiquement, pareil, t'as pas de notion de chimie. Tu n'ingurgites pas quelque chose qui va créer chimiquement une addiction et un manque. Mais cette addiction a été reconnue, pourtant.
Ouais. Oui, déjà reconnue avec les jeux d'argent, ce qu'on nous dit.
Exactement, les jeux d'argent, l'addiction des jeux d'argent a déjà été reconnue. Donc, ça ne se limite pas non plus qu'à des substances ingérées. Donc après, je dis pas, hein, je suis pas forcément pour ou contre parce que je ne suis pas suffisamment renseignée et je voilà, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais en tout cas, je trouve que justement, d'un côté, je comprends l'organisation, la démarche de l'Organisation mondiale de la santé pour encourager la prévention, pour éviter de tomber dans des cas non sains d'usage et notamment préserver les plus jeunes, parce qu'on sait combien le manque de sommeil et perturber le cycle de sommeil peut impacter la santé au global, hein, sur un corps et sur la santé mentale et sur la santé physique. Ça impacte les deux très fortement et ça peut impacter le développement, hein, chez les plus jeunes. Mais d'un autre côté, je comprends aussi la méfiance des professionnels de santé.
Et toi, en tant que rescapé de ton à l'élevage de dragons intensif, tu as un témoignage à donner ou...
Avant ça, c'était Dofus. Hein.
Oui, avant, c'était Dofus.
Ouais.
Mais après, t'avais quelques petits comportements agressifs quand tu élevais tes dragons ou ton dernier jeu Harry Potter ou... Des troubles du sommeil également.
Troubles du sommeil, je sais pas, mais je sais que quand je jouais à Dofus... Bah, ça m'est arrivé de passer mes vacances
à jouer à Dofus.
À jouer à Dofus. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je rate, quoi. Et du coup, ça m'a un peu fait peur. Et je crois que j'ai un peu arrêté du jour au lendemain. Et du coup, je sais que je me fais facilement avoir par ça. Et le problème, c'est que je ne vais pas avoir un usage modéré.
Ouais, mais moi,
je vais avoir un petit peu du mal à me contrôler, tout ce qui est jeu, qui
c'est
est
pour
mécanique,
ça que je veux plus toucher au MMO.
Tu vois, Harry Potter, j'y jouais pendant beaucoup de temps, pendant un laps de temps, et puis en fait...
Oui, au bout d'un moment, ça te lasse.
Alors, heureusement, il y a des jeux qui ont un mécanisme où il faut attendre de plus en plus longtemps pour débloquer des choses.
Ça te saoule au bout d'un
moment.
Et donc,
du coup, non, c'est pas que ça me saoule, c'est qu'en fait, ça enlève l'addiction.
Oui.
Parce que du coup, comme il faut attendre de plus en plus, et que j'ai pas encore passé le cap de payer...
Ouais.
Pour débloquer des choses, sauf pour Harry Potter sur certains trucs, j'avoue que j'ai craqué. Mais j'ai pas trop passé l'étape de payer pour débloquer des choses. Et du moment où je passe l'étape, je me dis, là ça m'embête. Et donc du coup, j'arrête. En tout cas, moi c'est ce qui s'est passé.
Fortuite, j'aime bien Fortuite, c'est un joli nom de jeu. Fortnite
a été conçu pour créer,
ouais, chez le joueur et son système de monétisation, bien évidemment. Mais après, quelle est la différence entre un algorithme de frustration et bien designer un jeu? Ça pourrait être un débat hyper intéressant. Un bon design de jeu, c'est on veut que les gens y jouent, ils reviennent et payent aussi pour jouer. Quand je dis algorithme de frustration, on pense à des méchants développeurs qui calculent des formules pour que les gens deviennent addicts. Mais si on dit, bah, le mec, il a développé un super jeu vidéo et j'ai envie d'y jouer tout le temps, c'est plutôt bénéfique, vu du côté joueur. Alors que c'est la même chose, en fait.
Ouais, alors, tu vois, encore une fois, je reviens avec le parallèle des machines à sous, tu vois. Je vois peu. Alors après, encore une fois, je suis pas une experte des jeux vidéo, hein. Mais entre un Candy Crush et une machine à sous, tu vois, je me demande un petit peu
que quoi.
Bah le jeu vidéo Candy Crush, enfin, il y a très peu d'intérêt à y jouer, quoi.
Tu vois. Tu disais pas, t'as pas toujours dit ça sur Candy Crush.
Ah non, mais c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que j'y ai jamais joué.
Non, mais c'est vrai. En fait, le problème de...
Tu vois, c'est pas comme le jeu qu'on a, Divinity Original Sin, où
oui, on avançait, etc.
Tu dois réfléchir, oui, mais trouver des indices, etc.
Même un bon jeu vidéo, il y a un moment où, quand tu, comme tu dis avec Tofu...
Tu
joues avec des petits morceaux de trucs blancs, tu sais.
Bah, c'est un peu ça.
Hein? Oui, on
a... T'as pas vu les personnages de Dofus ou quoi?
Si, si.
Les petits
quand tu sors d'un week-end de jeux vidéo intensif, et ça nous est tous arrivé, t'as quand même un goût désagréable dans la bouche, quoi. Moi, je me souviens, hein, j'ai fait 72 heures à Alterac, je me levais uniquement pour aller aux toilettes. 72 heures quasiment sans dormir. Tu ressors de là, d'un côté t'es content, et d'un autre côté tu fais putain, quand même, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps, quoi.
Mais t'as quand même, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que t'as quand même cette notion de ah, mince, il y a quand même quelque chose, quoi. Alors qu'en fait, finalement, d'après les personnes qu'on a pu voir et les différentes histoires, bah en fait ce cap-là est dépassé.
Oui, tout à fait.
Et c'est ça le danger, en fait.
Ouais. C'est quand tu te poses même plus la question.
Bref,
eh bien maintenant, c'est une maladie. Vous pourrez dire à votre patron, désolé, je suis en retard, j'ai un mot de mon médecin, j'ai trop joué.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on attend de la voir arriver dès 2022, où ça devra être officiellement reconnu. Et donc, du coup, d'ici 2022, les gouvernements doivent mettre en place justement des programmes pour pouvoir le prendre en compte correctement. On verra les initiatives qui sont proposées.
Tout à fait. Et continuons dans le jeu vidéo, puisqu'on va parler du Microsoft Project xCloud. Donc, c'est le projet de Microsoft du fameux Gaming in the Cloud, le streaming de jeux, dont je rappelle brièvement le principe, c'est que votre jeu est joué par une machine à puissance déportée et vous recevez des images de votre jeu et vous renvoyez uniquement des commandes. Donc, la console qu'il y a chez vous, le support physique qu'il y a chez vous, ce n'est plus ça qui fait tourner le jeu, c'est des serveurs à distance.
Hyper intéressant ta remarque, Jean. Lorsque tu achètes du loot et que c'est aléatoire, ça peut s'apparenter à des jeux d'argent et certains pays les ont interdits.
Ben, Belgique.
Ben, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est hyper intéressant et justement, ça crée le parallèle encore plus important entre les deux mécaniques.
Et il y a une chose où Microsoft est en avance, c'est la rétrocompatibilité de ces jeux, puisque sur une Xbox moderne, tu peux faire tourner d'anciens jeux Xbox, ce que Sony ne sait pas faire. Et de plus, c'est ce qu'ils disent, le projet, en fait, Project xCloud, va demander très très peu d'adaptation, voire pas d'adaptation, aux développeurs de jeux vidéo. C'est-à-dire, s'ils développent un jeu pour la Xbox, il sera compatible avec le Project X. Donc, tous les jeux virtuellement, et même les anciens, seront disponibles sur les serveurs Project X.
xCloud.
Hein ?
Parce qu'il y a déjà un projet X qui existe chez Google.
Ah d'accord, xCloud, oui, pardon. Ouais, les appellations chez Microsoft. Et ça commence vraiment à prendre forme, puisque les Project xCloud de Blade ont été développés sur des data centers Azure, 13 pour l'instant régions dans le monde, et plus à venir. Un partenariat, on en avait parlé la semaine dernière, entre Sony et Microsoft a justement été signé. C'est-à-dire que Sony, en gros, reconnaît qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Et pour l'instant, tout ce qui est Sony on the cloud est hébergé chez Amazon. Et ça, ils veulent pas. Et ils préfèrent signer avec Microsoft pour donner un petit peu l'ordre d'idée à quel point Amazon est vu comme un danger dans le futur. Donc Sony va le faire, mais finalement avec Microsoft.
Mais c'est chouette quand même, trois générations de jeux, c'est quand même...
Ce qui veut dire que le projet va arriver avec plus de 3500 jeux directs qui tourneront dessus. Est-ce que c'est un message pour Shadow PC? On en reparlera quand tout ça sera sorti, mais Shadow PC, c'est pas exactement la même offre. Hein. T'as un PC sous Windows complet. Là, t'auras accès à des jeux. C'est quand même pas exactement la même chose. Il y a d'ailleurs du pour et du contre dans les deux approches. Hein.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment le cloud arrive maintenant sur le marché. Ça fait quand même quelques années qu'on parlait de Blade et de Shadow.
Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand ça a été Blade avec le Shadow PC, vous avez qu'à lire les commentaires, ça marchera jamais. Et depuis que Microsoft et Sony et tout le monde annoncent, ils vont se faire écraser, c'est des Français. J'ai envie de dire, on aurait peut-être pu éviter ça, mais bon, tu vois, c'est ça qui m'énerve, en fait. On a un beau projet qui est en avance, on le démonte parce que, oui, c'est français, ils n'y arriveront jamais, et après, c'est les mêmes qui vont dire dans les commentaires, mais pourquoi dans le débat Huawei États-Unis, il n'y a rien d'européen ? Peut-être aussi parce qu'on n'a pas trop supporté les projets européens. Bref, c'était mon petit coup de gueule du matin.
Franco-français !
Non, mais justement, moi, ce que j'aime chez Blade, c'est qu'ils se considèrent pas français, tu vois. C'est pas, ils ont pas le logo, c'est pas un camembert dans lequel on a mangé, quoi que ça pourrait être ça. Ils ont pas mis un petit coq. Ils refusent l'étiquette French Touch, enfin trop French Tech. French Tech. Une entreprise aujourd'hui, on s'en fout finalement qu'elle soit française. Après, qu'elle soit en France, ça crée de l'emploi en France, donc on devrait arrêter de lui chercher des poux dans la tête et la ramener à une dimension franco-française minuscule. Bref, je ferai un sujet là-dessus un de ces jours.
Je pense qu'il y a une vidéo coup de gueule là qui...
Ouais, je ferai peut-être une vidéo réaction un jour là-dessus. Ces startups qu'on a démolies. Tout ça pour dire, le projet xCloud est pour l'instant testé chez les employés de Microsoft. La bêta publique devrait arriver un petit peu plus tard cette année. Et également, on apprend qu'on en saura plus à l'E3. Et là aussi, où on en saura plus, c'est le Google Stadia. Donc, ça risque d'être intéressant à suivre. Team Jérôme, je reste avec Shadow perso. Alors oui, je le dis, un dernier truc sur Shadow. Deux témoignages. D'abord, ça tourne très très bien en ce moment, Shadow.
Ouais, c'est ce qu'ils ont rectifié. Là, dans les
commentaires. Ouais, ils ont rectifié beaucoup de problèmes. Et vendredi soir, mon Shadow est tombé en panne dans une mise à jour Windows et il est resté bloqué. Montre en main, j'ai appelé la hotline. 3 minutes après, il était dépanné.
Appelé ?
Non, pas appelé. J'ai envoyé un mail. 3 minutes après, il me rebootait mon Windows. Il faisait un hard boot de mon Windows. Donc, pareil, au niveau du service, de la hotline, du service client, il y a eu quand même un sacré progrès. Du coup, si j'avais eu un problème avec un PC physique, je ne sais pas s'il aurait été résolu aussi vite. Voilà, c'était mon petit testimonial. Le point noir de toutes ces technos, c'est la connexion Internet en France et dans le monde, hein, Maurice. Mais je plains les gens qui ont des mauvaises connexions Internet, mais vous n'êtes pas la majorité. En fait, maintenant, il commence à y avoir une majorité de gens qui ont des bonnes connexions Internet, qui rendent en fait le cloud gaming possible. Après, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des endroits où on n'aura pas une connexion permettant ça. Et je comprends que les gens flippent en se disant « Mais s'ils sortent plus de consoles et de PC, comment je vais jouer, quoi ?»
Et puis là, tu parles... Ouais, enfin, l'enjeu de la rapidité de connexion Internet, elle touche le gaming, mais elle touche tous les secteurs, en fait.
Ouais, ouais.
Et ça peut vraiment avoir un pays à différentes vitesses et un risque très important pour un pays. Donc, clairement, c'est une problématique qui dépasse la problématique du jeu vidéo. Hein.
Et je ne parle pas de connexion fibre. Hein. Bien évidemment, il y a une minorité de gens qui ont des connexions fibre, mais... On peut jouer avec une connexion 4G, moyennement bien, et avec une bonne connexion ADSL qui tient la route, on peut tout à fait jouer à Shadow. Hein. C'est pas comme au début de Shadow. Voilà. On nous donne des témoignages, la connexion, pas en Belgique, Proximus, de la merde parfois. La province, c'est pas encore ça. Tu sais, à Paris, on a aussi des mauvaises connexions, on vous l'a suffisamment prouvé. Hein. En France, c'est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, c'est clair. L'ARCEP considère une bonne connexion à partir de 6 mégabits seconde. Si ta connexion ne drop pas trop, je vous ai déjà dit, hein, le Shadow PC, ce n'est pas qu'une question de vitesse de connexion. Il y a aussi la qualité de la connexion. Les pertes de paquets, ce genre de choses, et une connexion assez moyenne, mais stable, ton Shadow PC tournera très bien dessus. Je découvre que le chat peut être activé chat. Sur les... Ah, le chat, oui, d'accord. L'enjeu du cloud gaming, c'est la tendance actuelle, la surproduction, la surconsommation. Non, ça se consomme et ça se jette. Bah oui.
Bah tu peux faire un parallèle avec l'industrie de la musique. Hein.
Ah bah oui, et puis des films, des séries, ouais. Enfin.
C'est la même chose.
C'est une Netflixisation des choses.
Enfin, ça existait avant Netflix. Hein.
Oui, je sais. Mauvaise connexion dans Paris, forcément le 15e. Ah bah oui, le 15e, vous avez vos propres. De toute façon, le 15e a un Internet, l'Internet du 15e. C'est un peu comme CompuServe, quoi. C'est fermé. Ils n'ont pas le droit de sortir de la frontière du 15e, en fait. On leur donne toutes les semaines une copie de l'Internet mondial.
C'est super sympa quand même avec les gens du 15e.
Ah, mais j'adore le 15e, de loin. Mais non, on vous aime, le 15e. On vous aime. De toute façon, on n'est pas en guerre avec vous pour l'instant. Je suis pour un ban de toutes les technologies du 15e.
Arrête avec ce certain, arrêtez le 15e, c'est super beau, c'est super accessible.
Oui, ça, c'est ce que disent les gens du 15e pour nous attirer dans leur piège. Genre, on les connaît.
On enchaîne après justement la partie jeux vidéo cloud. On continue avec les données confidentielles. Et là, c'est l'anniversaire. On a fêté l'anniversaire ce week-end du règlement général de la protection des données qui avait été initié du coup avec la Commission européenne, hein, dirigée par Jean-Claude Juncker. Le règlement était entré en vigueur le 25 mai 2018, hein, après 4 années de négociations, d'âpres négociations entre les 28 pays membres. Justement, le but, c'était de renforcer considérablement les droits des cybercitoyens européens. Voilà. Donc, la mise en place ça recouvrait notamment la mise en place d'une réelle protection des données en le pensant dès le début de la conception des systèmes avec le privacy by design, en demandant le consentement obligatoire des consommateurs également pour leur utilisation, le droit à l'oubli et l'effacement ou encore l'accès aux données. Voilà, donc tout ça, c'est des exemples de mesures qui font partie justement du règlement général de la protection des données. Qui était vraiment là pour lutter pour la protection des consommateurs et notamment lutter un peu contre les pratiques des GAFAM. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ont adopté le règlement général de la protection des données en tant que membres de l'espace économique européen. Mais pas que, la Californie, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil ou encore l'Argentine ont tous promulgué ou sont en passe de le faire une législation très proche également du RGPD. Donc du coup, on voit un peu l'influence, après un an, l'influence du RGPD à l'échelle internationale, pas seulement européenne, ouais, mais à échelle internationale, car c'est devenu une référence mondiale et ça a été cité tout au long de l'année par différents pays pour montrer l'importance de justement garantir la sécurité des données et la confidentialité des données des consommateurs. Donc là, quand même un joli... jolie influence et joli impact à l'échelle internationale. Je pense qu'il y en a beaucoup à la Commission européenne qui doivent se féliciter, quoi. Qu'est-ce qu'on sait là depuis un an ? Eh bien, on sait que grâce au RGPD, ou en tout cas à cause du RGPD, la CNIL a infligé une amende de 50 millions d'euros à Google. Voilà, la société Google faisait face à deux plaintes d'associations, notamment la Quadrature du Net, qu'on le connaît bien, et None of Your Business, qui portaient pour toutes deux sur le traitement abusif des données personnelles des utilisateurs de smartphones Android. Voilà, mais c'est qu'un début. Justement, durant la première année de la mise en place du règlement général de la protection des données, la CNIL, ou en tout cas les organismes en charge de s'assurer du bon respect du RGPD, ont été plutôt souples, parce que c'était la première année, et du coup, voilà, c'était un peu compliqué, et puis certaines règles étaient un peu floues. Ils ont été un peu souples durant la première année de la mise en place du RGPD, mais du coup, maintenant que la première année est passée, eh ben, ils vont être moins souples, et du coup, il y aura potentiellement plus de sanctions à venir. Voilà. Donc, cette première année est passée et la tolérance, cette forme de tolérance ne va plus être à l'ordre du jour. Donc, on risque de voir quand même une augmentation dans le nombre de plaintes. Exactement. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? On a donc déjà vu une augmentation de 32% du nombre de plaintes déposées, dont plus d'un tiers concernait quand même la diffusion des données sur Internet. La CNIL a réalisé 318 contrôles, adressé 49 mises en demeure pour non-conformité au règlement. Et voilà, il y a 10 sanctions pécuniaires qui ont été prononcées, dont Google, voilà. Et donc l'annonce de la fin de la tolérance maintenant pour 2019. Voilà, Google n'est pas le seul des GAFAM à être dans le collimateur de la CNIL ou de ces organismes, ou même de Bruxelles. Il y a évidemment Amazon, Apple, Facebook et Microsoft et leurs filiales qui sont toutes visées par de nombreuses plaintes qui sont actuellement examinées par les autorités de plusieurs pays membres de l'Union européenne. Voilà. Donc, ça sera intéressant. Après, ça ne va pas s'arrêter là. Le règlement, en tout cas, de général de la protection des données ne va pas s'arrêter là. Il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie évolution de la reconnaissance de cette législation. Car en 2015, il y avait 4 personnes sur 10 qui étaient au courant de ce cadre législatif qui allait entrer en vigueur sur le vieux continent, et maintenant en 2019 ou 2018, 6 personnes sur 10 sont au courant de ces mesures. Donc du coup, ils sont au courant de leurs droits, quoi.
C'est ça la grande réussite pour moi de la RGPD. Bon, c'est vrai que dans l'absolu, maintenant on ferme les fenêtres, on fait même plus attention, mais il y a eu quand même une prise de conscience vraiment d'un point de vue global et hors sphère technophile qui était au courant depuis longtemps de tous ces abus. Et je trouve ça, c'est la grande victoire du RGPD, quoi.
Je pense que c'est pas forcément à attribuer uniquement au RGPD, hein. C'est aussi à attribuer sur la couverture des médias sur les failles et les données qui sont un peu parties dans la nature. Donc ça aussi, c'est un effort commun. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour le RGPD, il n'est pas figé et il va évoluer avec son temps. Donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant, notamment l'intelligence artificielle, le développement des réseaux 5G et également comment garantir l'intégrité des élections. Donc ça, c'est vraiment les enjeux de ces prochaines années. Et donc, je trouve ça intéressant de se dire que le RGPD va aussi développer, ouais. Et évoluer de ce côté-là. Donc, l'année 2019 va vraiment être assez critique, hein, pour le RGPD, parce que du coup, on va voir si il va être crédibilisé, hein, au niveau juridique, où justement, ils vont réussir à concrétiser les amendes qui vont passer. Et après, il y a pas mal de défis, notamment sur comment s'assurer de la mise en place et du respect du RGPD au niveau des petites et moyennes entreprises, car pour elles, c'est pas forcément aussi facile à mettre en place, et c'est des coûts qui sont conséquents. Voilà.
Tout donc, à fait. Bah, bilan, bon anniversaire.
Bilan plutôt quand même positif et encourageant pour le RGPD, quoi.
Ouais.
Ce qui n'était pas quand même donné d'avance.
Ça laisse la chatroom quoi ? Ils ne disent rien. But de la RGPD, c'est pas juste nous pourrir la vie avec des fenêtres. Ah bah non, Vincent, non. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je vois le RGPD. C'est bien le RGPD pour l'Europe, mais par exemple, sur certains sites US, je ne peux plus m'inscrire. Ah oui, les sites US qui ne se mettent pas aux normes.
Alors après, il y en a qui ont évolué, hein, c'est-à-dire qu'ils ont coupé l'accès au site et puis quelques mois après, ils ont réouvert pour le temps de se mettre en conformité.
En conformité, ouais.
Mais en effet, c'est un coup.
Non, et puis dans l'absolu, sans faire on a imposé un truc à l'internet mondial du monde européen.
L'internet mondial du monde.
Oui, c'est fait exprès. Un point de vue européen en tout cas sur l'utilisation des données. Et entre guillemets, on s'est pas fait écrabouiller, parce que je me souviens, beaucoup disaient le RGPD, de toute façon, les États-Unis vont balayer ça d'un revers de main, ils en ont rien à foutre et tout. Si, ils en ont eu quand même à foutre, ils ont adapté du coup leur site. Donc l'idée, c'est pas de faire chier pour faire chier, mais on a le droit de penser différemment que le reste du monde et de proposer et même d'imposer nous ce qu'on voudrait de l'utilisation de nos données. Donc en ça, c'est déjà une victoire pour
moi. Vrai que quand même, quand on replace un peu dans le contexte et dans la frise chronologique, c'est vrai qu'il y a quand même eu un joli concours de circonstances entre l'arrivée du RGPD et le travail sur le règlement de la protection des données et tout le bad buzz sur l'utilisation des données
notamment
Facebook, etc. Ouais. Donc du coup, ça a quand même permis, je pense, une meilleure adoption et une meilleure reconnaissance du RGPD, parce que clairement, on a vu l'intérêt de travailler en ce sens.
Ah oui, le RGPD en Chine, oui, c'est pas sûr qu'eux, ils se mettent à nos normes très rapidement, hein, les Chinois. Ça, c'est certain. Ce qui est de la protection des données, c'est pas trop leur tasse de thé. Hein. J'ai une histoire croustillante. J'ai une histoire qui pourrait bien, et pourtant elle était bien cachée, hein. Il n'y a pas grand monde qui en parle, mais une histoire qui pourrait s'avérer très croustillante. Je vous ai souvent dit que Apple a dit « Nous, on défend votre vie privée, on ne vend pas votre data à qui que ce soit. » Si un jour on trouve qu'ils vendent du data, ça va faire très très mal pour Apple. Eh bien là, il n'y a pas de preuve, mais en tout cas, il y a une accusation. puisqu'on apprend qu'il y a une class action, donc une action collective des consommateurs de Rhode Island et du Michigan qui accusent Apple de vendre leurs données de leurs habitudes de consommation de musique sur Apple Music. Alors, ce que précise pas l'article, c'est où est-ce qu'on peut l'acheter, mais ils disent on peut acheter une liste avec des noms et des adresses de toutes les personnes qui écouteraient telle ou telle musique ou qui ont tel ou tel niveau d'éducation, etc. Et cette liste est disponible à la vente pour $136, ce qui est très peu cher pour un fichier. Hein. Après, ils ne précisent pas où est-ce qu'on peut l'acheter. Est-ce que c'est Apple qui la vend directement? Est-ce que on ne sait pas trop. On sait que Apple, c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup cette histoire. Est-ce qu'Apple vendrait directement ses données? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Puisque Tim Cook n'arrête pas de dire « on ne fait pas d'argent en vendant les données ». Il serait bien con de les vendre, même de manière dérobée. Derrière, le risque de mauvaise com serait trop important. Donc, ça va être une affaire à suivre. On va voir si c'est une class action qui est un peu pipi dans le vent ou s'il y a vraiment une base solide à cette accusation que Apple vend quand même les données. Et surtout des données avec des noms, parce que des données anonymisées, bon, déjà ils le font pas normalement, mais ce serait un peu moins grave. On va dire des statistiques sur qui écoute Apple Music, mais même à ma connaissance, il n'y a pas de département chez Apple de vente de data, quoi. Donc il va falloir détricoter cette histoire.
Ouais.
Mais si jamais c'est vrai,
ah oui là,
c'est mauvais pour Apple. Hein. C'est très très mauvais pour Apple. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Oui, mais il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Non, mais je suis d'accord, Olivier. Pour l'instant, c'est juste une accusation. Pas plus qu'une accusation.
Tim Cook est un menteur business.
Pour d'autres, ce n'est pas qu'une accusation. Hein. Il y en a qui sont à fond. Il y en a qui sont à fond. C'est trop gros pour paraître vrai. Tiens, ça reparle RGPD. Il y a des trucs bizarres à RGPD. Si j'habite en Polynésie française, eh ben, je pourrais pas m'inscrire à certains sites. Half-Life, je sais, mais bon, je suis obligé d'y avoir une adresse. Ah, je savais pas ça. Il y a peut-être la découverte d'un gros vilain spyware. Après, il y a une différence entre trouver les données et les vendre. Mmh. Les vendre à du marketing, en fait. C'est pas la même chose. En fait, il y a beaucoup de confusion autour de la vie privée. Ça aussi, ça pourrait faire un bon sujet d'émission. Mmh.
Mmh. On continue justement avec la vie privée et le partage des données, mais cette fois-ci, ça se passe chez Snapchat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, en fait, il y a Motherboard qui a dévoilé donc une petite enquête le jeudi dernier, hein, où en fait, ils annoncent que Snapchat ont un outil qui permettrait de répondre aux réquisitions judiciaires et donc de donner accès à des informations des utilisateurs, des informations personnelles des utilisateurs. Cet outil s'appellerait Snap Lion, mais encore ça, c'est pas confirmé au niveau du nom de l'outil. Mais en tout cas, cet outil permettrait d'accéder à certaines informations pour but de répondre à des réquisitions judiciaires. Sauf qu'en fait, certains plus d'employés que prévu, parce que normalement l'outil est disponible à un nombre limité d'employés, et ben en fait, il aurait été utilisé par des employés qui n'auraient pas dû pour accéder, pas dans le cadre d'une réquisition judiciaire, aux informations. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus problématique. Normalement, ce qui se passe, c'est si une personne viole la loi, que ce soit abus d'enfants, violence, etc., et que les autorités ont des raisons de penser que le contenu du compte Snapchat pourrait aider à faire avancer l'enquête, ils peuvent demander justement à Snapchat de fournir le contenu. Donc c'est vraiment dans le cadre juridique, et justement, il y a d'autres plateformes qui font ça, hein, notamment Facebook, etc., qui ont des outils similaires. Voilà. Mais normalement, il y a une seule équipe, hein, qui est dédiée justement au spam et aux abus et qui a accès à cet outil. Et voilà, ça n'a rien d'anormal. Donc, quelles sont les données auxquelles ils ont accès? C'est la géolocalisation, les snaps archivés par l'utilisateur, les memories, le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Donc, c'est quand même pas mal en termes de données. Et en fait, il semblerait que des utilisateurs qui n'auraient pas dû, enfin, des employés qui n'auraient pas dû, ont eu recours à cet outil pour récupérer des informations personnelles. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle mesure et à quelle fin ces données ont été utilisées. Donc, c'est un peu l'interrogation aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que Snapchat compte quand même 186 millions d'utilisateurs. Le réseau social n'avait jamais parlé explicitement de l'outil, mais voilà, la FTC en 2014, pour rappeler, avait quand même épinglé Snapchat hein, pour ne pas avoir expressément dit et mentionné qu'il collectait, stockait et transmettait les données de géolocalisation. Donc du coup, voilà, on se méfie un petit peu. Et c'est quand même un sujet un peu touchy
Snap. Moment.
Ouais, ils ont intérêt à faire attention. Donc du coup, il y a un porte-parole de Snap qui s'est prononcé justement sur le sujet et il a mentionné que la protection de la vie privée était primordiale pour le réseau social, qu'ils ont des politiques et des moyens de contrôle robustes pour limiter les accès aux données internes. Donc en gros, de quoi s'agirait-il? Bah, tout simplement, il s'est passé une violation claire des règles de Snapchat par certains employés. Et donc, du coup, les coupables seront licenciés s'ils sont identifiés. Là où c'est un petit peu curieux, c'est que pour un outil qui est censé être accédé par un nombre restreint d'employés Snapchat, qu'ils n'aient pas le moyen de les identifier facilement, d'identifier qui utilise ces outils. Mais bon, voilà. C'est pas les premiers à avoir eu ce genre de problème. Hein. On se rappelle de Uber ou de Facebook, etc., où déjà certains employés avaient eu accès à des données, à des outils qui normalement étaient réservés uniquement pour des requêtes judiciaires, pardon, pour notamment espionner leurs ex. Donc, on ne sait pas ici pour Snapchat dans quel cadre, dans quel contexte ça a été fait, mais voilà, ça a été fait. Donc, on aura peut-être plus d'informations à venir sur ce sujet, mais sachez en tout cas que Snapchat est au courant de ça et que grâce à Motherboard qui a dévoilé l'affaire, on devrait en savoir plus prochainement.
Eh bien, affaire à suivre, que d'histoires et que d'affaires à suivre ce matin. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce Techscope et de l'avoir commenté avec nous. On arrive à la fin de l'émission. On va passer aux questions traditionnelles, si vous avez des questions à nous poser ce matin. Pas de questions Platinium ce matin, donc on peut enchaîner directement. On va rester un petit peu, après il ne faut pas qu'on parte trop tard ce matin. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. J'ai vu quelqu'un qui se plaignait que Google et YouTube ont demandé à des applications de ne plus jouer YouTube en tâche de fond, donc qui ne peut plus écouter Techscope en tâche de fond. Je pense que oui, tu peux le faire, mais avec YouTube Premium, et c'est pour ça que YouTube, c'est une fonctionnalité payante maintenant de YouTube. Et c'est pour ça, je pense qu'effectivement, YouTube fait la chasse aux applis tierces qui permettaient de le faire. Merci de remettre tous les liens. Est-ce que jeudi, il y a une émission vu que c'est férié? C'est une excellente question, parce que moi, je vais travailler jeudi, mais par contre, je travaille pas vendredi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un Techscope jeudi. Je le ferai tout seul. Un Techscope jeudi, un Techscope exceptionnellement un jour férié, et j'en fais pas vendredi, du coup. Peut-être faire ça. Comme ça, vendredi. Surtout que vendredi, on prend le train à quelle heure? Ouais, vendredi, il n'y a pas de Techscope.
Non, je pense pas.
Bon, alors, il y aura un Techscope jeudi. Ouais, il y aura un Techscope jeudi.
Et un live VIP, du coup.
Et un live VIP, du coup, aussi, le jeudi. Mais il n'y aura pas de Techscope vendredi.
Ah, en fait,
ça vous va ?
On a inversé les jours fériés.
Voilà. Moi, de toute façon, je travaille jeudi.
On travaille jeudi, mais on ne travaillera pas vendredi. Comme ça, ça nous fait un week-end de 3 jours.
Voilà.
Hein. Donc, mais si vous arrivez à vous lever à 9h jeudi, vous pourrez avoir... À 8h, pardon. À 8h, vous aurez votre Techscope.
Tout à fait. Après, j'ai presque envie de décaler. Ouais, non, j'irai au bureau tôt. Je me lèverai à 6h jeudi. Voilà, normal. Non, je me disais, je pourrais peut-être me lever un petit peu plus tard jeudi, mais bon. Non, je serai là, je ferai un Techscope.
Il y aura plein de personnes qui passent.
Voilà.
Hein. Ah, les courageux.
Les courageux. Mais par contre, vendredi, on ne sera pas là, on est bien d'accord. Hein.
Ouais, désolé, pas de Techscope vendredi.
Ouais. De toute façon, on ne pourrait pas vendredi, on est dans le train.
Ouais.
Que l'atelier...
Vacances chez Marion. De quoi?
Ils sont en train de discuter sur la logistique de l'émission.
Oui.
Quand tu es étudiant, tu n'as pas de jour férié. T'as pas de jour férié quand t'es étudiant?
Bah, t'as pas cours les jours fériés, si. Je sais pas.
Je m'en rappelle plus. Ouais. Non, mais alors attendez, toutes les vacances que vous avez là. Enfin, ça dépend. Hein.
Oui, ça dépend. Oui.
J'ai pensé aux écoliers. Ouais.
Oui, il y aura le jeudi VIP aussi. Hein. Fais ton Texcope en slip, au saut du lit, on n'est plus à ça près. L'autre jour, c'était pas loin.
Hein. T'as pas envie de ça.
Je l'ai fait en peignoir déjà.
Ouais.
Une fois. Moi, je bosse pas jeudi, mais vendredi. Si vous voulez, je vous donne mon planning de boulot et vous organisez. Oui.
Mais en fait, on s'est déjà organisé sans ton planning.
ouais, je pense que tu confonds. Oui, YouTube Premium n'a rien à voir avec YouTube Member. Hein.
Si, si, quand t'es étudiante, t'as les jours fériés et on a plus de vacances que les écoles. Mais quand on doit payer ses études, bah, on bosse tous ces jours.
Oui,
ah ben bah, oui, tout à fait. Bah, en effet, il y a tous ceux qui ont un boulot à côté pour pouvoir payer leurs études ou leur logement, etc. Hein. Oui, oui, complètement.
Non, je ne l'ai jamais fait en slip, l'émission.
Quand même.
Quand même. Je me respecte.
Il y a une certaine limite encore.
Oui, tout à fait.
On ne sait pas si elle tiendra très longtemps.
On prend la dernière question. Il est 9h01.
Ouh là là, Jérôme, il est...
Ouais, je suis speed.
C'est pas moi, là, vous avez remarqué.
Une très dernière journée, question, autre chose que mon slip peut-être. S'il y a, s'il n'y a pas de dernière question, on va arrêter là. On va laisser un petit peu dérouler. Il n'y a pas une question qu'on a ratée. Non, ça a été que sur les jours fériés. Bon, bah écoutez, il y a plus de questions. Eh bien, on va arrêter là. On vous souhaite une excellente journée à tous. Dernière question, vous avez bien dormi?
Ouais, ça va.
Ouais, moyen.
Agité.
Allez, bonne journée à tous. Moi, je vous retrouve demain matin. Marion, mercredi, tu le fais?
Ouais.
Marion vous retrouve mercredi. Moi, je vous retrouve jeudi matin. Il n'y aura pas de Texcope. Vendredi, on vous fait des gros bisous. Ciao tout le monde.
Très bonne semaine.
Ciao.
À mercredi.